Et c'est donc Mathieu Laurent pour le journal. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. L'Europe politique face à ses lâchetés. 49 réfugiés à bord de deux navires d'ONG allemandes attendent toujours un port d'accueil. Le pape a volé à leur secours. L'Europe a un peu plus de 3 mois du Brexit, enfin sur le papier. Theresa May travaille à un amendement à soumettre mercredi prochain à sa majorité. Précision dans un instant de Marina Daras à Londres. Deux poids lourds de la diplomatie et de la sécurité nationale américaine sont au Proche et Moyen-Orient pour travailler aux équilibres et déséquilibres consécutifs à l'annonce du retrait américain du Nord syrien. Invité de cette édition, le politiste Bertrand Badi. Et puis à la fin de ce journal, le regard sur la 8e mobilisation des Gilets jaunes du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, propose une grande conférence sociale, un Grenelle en somme. Mais tout d'abord, l'appel du pape à la solidarité européenne afin d'en finir avec l'inhumanité de deux États qui assument leur refus et celle d'autres qui se contentent lâchement de faire silence ou bien de poser d'improbables conditions. Refus articulé de l'Italie et de Malte d'accueillir 49 réfugiés secourus par deux ONG allemandes. Ce n'est pas la première fois que le pape François s'exprime sur ce sujet. C'est une correspondance de Rome de Xavier Sartre.
Le scénario est maintenant connu depuis plusieurs mois en Méditerranée. Des ONG ont sauvé des migrants d'une noyade certaine au large de la Libye les 22 et 29 décembre et attendent depuis de savoir où les débarquer. Devant l'absence de réponse des Européens, le pape François a pris la parole ce dimanche midi.
Depuis plusieurs jours, 49 personnes sauvées en Méditerranée sont à bord de deux bateaux d'ONG en recherche d'un port sûr pour débarquer. J'adresse un appel pressant aux responsables européens pour qu'ils démontrent une solidarité concrète vis-à-vis de ces personnes.
Le pape ne fait que répéter ce qu'il a en somme toujours dit depuis près de 6 ans. L'Europe doit accueillir ses naufragés. Dans les premiers mois de son pontificat en 2013, il s'était rendu à Lampedusa, l'île italienne, symbole de ces migrations souvent meurtrières, mettant en lumière une situation intolérable selon lui. Son déplacement sur l'île grecque de Lesbos en 2016 avait le même but. Cette ligne qui a provoqué des remous au sein des catholiques du continent est maintenant adoptée par l'ensemble de la hiérarchie ecclésiastique. Les évêques maltais, dont leur pays est en première ligne avec l'Italie, ont demandé l'aide de leurs frères européens au sujet de ces 49 migrants. La Valette, tout comme Rome, a en effet refusé l'accès de ses ports aux ONG. Pour le moment, seule l'Allemagne et les Pays-Bas sont prêts à accueillir ces personnes, mais uniquement dans un cadre européen.
Faut-il, une fois de plus, oser la qualifier de décisive? Il y en eut tant et plus. Penchons pour semaine importante pour les négociations sur le Brexit. Mercredi prochain, reprise à la Chambre des communes, des débats sur l'accord de retrait de l'Union européenne, vote envisagé vers le 15 janvier, voilà pour le calendrier. Il reste à la Première ministre encore quelques marges de manœuvre manifestement. Dernier pas de côté auquel elle travaille, Theresa May ambitionne de proposer à sa majorité de voter le texte sous réserve d'obtenir à Bruxelles quelques concessions s'agissant du backstop irlandais, filet de sécurité qui exclut tout rétablissement d'une frontière entre les deux Irlandes. C'est une correspondance de Londres de Marina Daras.
À moins de 3 mois du Brexit, la situation est encore très floue. Malgré les démentis de la Première ministre ce matin au micro d'Andrew Marr dans l'émission politique dominicale de la BBC, beaucoup pensent encore que Theresa May pourrait retarder une seconde fois le vote crucial qui doit avoir lieu à la mi-janvier. Mais la Première ministre a été catégorique, le vote aura bien lieu et le Royaume-Uni sortira bel et bien de l'Union européenne le 29 mars prochain. Et si les députés votent contre son accord, ils devront se préparer à un divorce chaotique sans filet de sécurité. Theresa May a redoublé d'efforts ces dernières semaines pour tenter de convaincre les députés de voter en sa faveur. Après plusieurs voyages à Bruxelles, elle a promis de clarifier devant la Chambre des communes au cours de ces prochains jours les points les plus épineux de ces négociations, à savoir les mesures spécifiques à l'Irlande du Nord telles que le backstop et la frontière entre les deux Irlandes et le rôle du Parlement dans les négociations des relations futures entre le Royaume-Uni et l'UE. Mais le DUP, le parti unioniste nord-irlandais qui forme une coalition avec Theresa May, refuse toujours de soutenir l'accord de la Première ministre, ne voyant aucun changement concret dans les explications de l'UE sur le principe du backstop. La victoire semble plus incertaine que jamais pour le gouvernement britannique, ce qui promet une semaine de débats parlementaires des plus houleux.
Nous nouvelle discussion entre élus démocrates et républicains, la Chambre des représentants, afin de sortir d'un shutdown partiel qui entre dans sa troisième semaine. Paralysie budgétaire, rappelons-le, qui touche 800 000 fonctionnaires. Le dernier message de Donald Trump sur le réseau social Twitter n'est pas de nature à desserrer l'étau. Le président américain a martelé, je cite, « Nous devons construire le mur ». Fin de citation. Le mur entre les États-Unis et le Mexique que les démocrates refusent toujours de financer. L'administration Trump a déployé deux de ses pièces maîtresses au Proche et Moyen-Orient pour accompagner l'annonce le 19 décembre dernier par Donald Trump du retrait du nord-est de la Syrie des 2000 soldats américains en poste et de provoquer ainsi une redistribution des cartes. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale, est en Israël depuis hier. Il est attendu demain en Turquie. Le secrétaire d'État Mike Pompeo ira lui à Riyad, Amman, au Qatar ainsi qu'au Koweït. Bonsoir Bertrand Badi.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politiste, spécialiste des relations internationales. Je parlais à l'instant d'un bouleversement, en tout cas d'une redistribution des cartes. Ce sont des termes que vous seriez prêt à employer ?
Tout à fait, et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire on assiste véritablement à la fin d'un temps qui était le temps hégémonique. Rappelez-vous celui où les États-Unis décidaient presque du bureau de la Maison-Blanche les contours d'une situation nouvelle dans telle ou telle région, ou alors qu'il négociait avec l'URSS d'autrefois. Aujourd'hui, c'est terminé. Les États-Unis se retirent de l'espace géopolitique syrien, peut-être demain aussi afghan, et il faut donc négocier ce retrait. Vous savez que la politique internationale, comme bien d'autres choses, a horreur du vide. Donc, un appel d'air est créé, et cet appel d'air s'adresse un partenaire avec lequel il est difficile de parler, la Russie, et à des acteurs locaux qui étaient considérés comme des alliés en position presque d'obligation par rapport aux leaders américains. C'est terminé maintenant. L'acteur local le plus redoutable, c'est bien entendu la Turquie. La Turquie qui bénéficie de manière extrêmement alléchante de ce retrait américain. Il va donc falloir faire pression sur Ankara pour que la Turquie ne prenne pas d'avantages trop substantiels suite à ce que vous appelez, à juste titre, cette redistribution des cartes.
Alors, Bertrand Badi, John Bolton a promis aujourd'hui même aux autorités israéliennes qu'il allait demander au président turc de s'engager à ne pas attaquer les Kurdes. Quelles conditions fiables, durables, posées à l'allié, au rival turc, on ne sait plus comment le nommer?
Eh bien, c'est tout le problème. Et vous mettez là le doigt sur un chapitre nouveau de nos relations internationales. La notion d'allié devient désuète, c'est-à-dire que le jeu international est devenu trop complexe, trop fluide. Il donne trop d'avantages à l'acteur local pour que celui-ci campe dans une attitude d'allié fidèle, obéissant, suivant de manière sourcilleuse ce que le grand frère annonce. Aujourd'hui, c'est le grand frère qui doit ménager le petit frère. Et là, en l'espèce, tenter d'obtenir un certain nombre de gages, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que Ankara est en position triplement avantageuse. D'abord parce qu'Ankara a l'oreille de Moscou et représente dans le Moyen-Orient l'un des acteurs devenus incontournables, ce que ne sont plus les États-Unis. D'autre part parce que il y a toujours cette menace implicite de la part de la Turquie de sortir de l'OTAN si décidément les relations avec les États-Unis deviennent invivables. Troisièmement, parce qu'on se demande qui peut, sur le terrain, empêcher l'armée turque de reconquérir cette partie de la Syrie qui est actuellement occupée, contrôlée
par les troupes kurdes,
coalition dans laquelle les Kurdes jouent un rôle important.
D'un dernier mot, le temps presse malheureusement, Bertrand Badi. Qu'attendre de la visite de Mike Pompeo à Riyad ? Amman, Riyad est un peu marginalisé, semblerait-il.
Alors, Riyad est marginalisé parce que Riyad fait quand même partie, sinon des vaincus, on ne peut plus employer ce terme aujourd'hui, en tous les cas, des laissés pour compte du conflit syrien. Il ne faut pas oublier qu'au début du conflit syrien, l'Arabie Saoudite était en première ligne, soutenait les mouvements qui contestaient le pouvoir de Bachar. Aujourd'hui, plus personne ne remet en cause le pouvoir de la famille Assad. Donc, Riyad n'a plus de cartes en main, sans compter que Riyad est considérablement affaibli par l'affaire Khashoggi. Donc, c'est, je dirais, un passage de politesse, mais peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus important. Il ne faut pas oublier que l'un des vainqueurs potentiels de ce retrait américain, c'est l'Iran. L'Iran, c'est le principal ennemi de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est l'allié des États-Unis contre l'Iran. Ça fait donc pas mal de choses à parler, même si la capacité d'agir sur le devenir même de la Syrie est maintenant très limitée lorsqu'on se trouve en Arabie Saoudite.
Merci beaucoup. Merci Bertrand Badi d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes politiste et spécialiste des questions internationales. Plus de 200 sans-logis et des militants de l'association Droit au logement, le DAL, occupe depuis le début de l'après-midi un immeuble du 13e arrondissement de Paris, immeuble inoccupé depuis 2017 qui appartient à une filiale du groupe Crédit Lyonnais, Crédit Agricole. Le DAL rappelle qu'il existe dans la capitale 346 000 logements vacants. Sur un autre front, celui des Gilets jaunes, une voix non pas qui se fait rare, non, une voix qui a moins droit de citer que d'habitude, la voix syndicale, celle de la CFDT en l'occurrence, son secrétaire général Laurent Berger a livré ce matin à nos confrères de France Inter ses observations et ses propositions.
Aujourd'hui, c'est assez factieux. Enfin, je crois qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. Moi, je voudrais qu'on arrive naïf et irresponsable dans un certain nombre de commentaires. Aujourd'hui, on a en face de nous, pour un certain nombre de gens, et je ne parle pas de tous les gilets jaunes, des gens qui veulent renverser la démocratie. Des gens d'extrême droite, peut-être d'extrême gauche, qui veulent renverser nos institutions et notre démocratie. Et donc, moi je le dis, il faut le dire clairement et dire qu'il faut combattre cela sans ambiguïté. Et je le redis, tout intervenant politique, syndical, etc., il doit commencer par dire qu'il faut sauvegarder la démocratie. On est dans une impasse. C'est-à-dire qu'on a un mouvement violent dont je condamne les violences. Mais on a, face à cela, un gouvernement qui considère qu'il va pouvoir trouver des solutions tout seul. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout le monde le sait. La société, elle est complexe. Il n'y a pas de simpliste. Vous parlez de simpliste. Mais si les choses étaient simples comme ça, on aurait tous trouvé les solutions. Donc ça veut dire qu'il faut que les différents courants de pensée se confrontent, apportent des propositions. La CFDT, elle en a plein.
Pour ça qu'on vous comprenne bien, Monsieur Berger, ça veut dire que vous réclamez à côté du grand débat national une grande conférence sociale avec notamment les syndicats. Est-ce que c'est cela que vous réclamez?
Oui, moi je continue de réclamer cette conférence du pouvoir de vivre. Qu'est-ce qui est posé?
Une sorte de Grenelle du pouvoir de vivre.
Oui, vous avez. Bien sûr. Qu'est-ce qui est posé? Il est posé les questions de pouvoir d'achat, c'est vrai, de fiscalité. Il est posé aussi la question de l'accessibilité, aux services publics. Et ça, il faut trouver les solutions pour répondre à ces problèmes-là. Et moi, oui, après 68, moi je suis né après 68.
Ça s'est terminé
68.
Avec le Grenelle.
Ça s'est terminé avec des avancées sociales. Ouais.
Voilà, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Julie, ce dernier développement, tenez l'oreille, a à voir avec votre sujet de dimanche après. Oui, cette nuit, figurez-vous, premier grand rendez-vous de la saison des récompenses à Los Angeles, avec les 76e Golden Globes, les trophées remis par la presse étrangère d'Hollywood. Lady Gaga, héroïne de A Star Is Born, sera l'une des stars de la soirée, tout comme Vice, la tragicomédie sur Dick Cheney, on parlait relations internationales et États-Unis, qui a reçu le plus de nominations, 6 au total. Mais la cérémonie sera un moment important pour Netflix, qui a de grandes ambitions pour Roma, Lion d'or à Venise l'an dernier. Loïc Piala est à Los Angeles.
Roma est un chef-d'œuvre. Les Golden Globes du meilleur film étranger et du meilleur réalisateur pour Alfonso Cuarón semblent promis à cette fresque en noir et blanc sur une famille mexicaine vue à travers les yeux d'une employée de maison. Ce serait un moment fort pour Netflix, qui n'a commencé à produire des films qu'en 2015. Mais à l'instar du Festival de Cannes, Hollywood ne sait pas comment appréhender le changement impulsé par le site de streaming. Qu'est-ce qui sépare aujourd'hui un film de cinéma d'un téléfilm? Pour des réalisateurs majeurs comme Steven Spielberg ou Christopher Nolan, c'est la sortie en salle, ce que Netflix fait peu ou pas. Alors la firme de la Silicon Valley rêve de voir Roma aux Oscars pour enfin asseoir sa légitimité à Hollywood, et un Golden Globe dans une catégorie majeure constituerait un premier pas. Amazon, autre site de streaming, ne fait pas face aux mêmes réticences. Le géant du commerce en ligne n'hésite lui pas à passer par les circuits classiques de distribution. Mais cette nuit, ce sont ses séries qui devraient lui valoir quelques trophées. La fabuleuse Madame Maisel, déjà récompensée aux Emmy Awards, et Homecoming avec Julia Roberts font partie des favoris.
Alors, quelques mots de météo avant de définitivement refermer cette édition. Demain, sur le relief des Pyrénées, les Alpes, les hauteurs du Massif central, le Languedoc-Roussillon, PACA et la Corse, temps sec et bien ensoleillé. Ailleurs, conditions anticycloniques hivernales. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto.